Je crois, sans vous dire de bêtises, que nous sommes de retour.
Et oui, c'est ça, on voit on air, c'est marqué on air en rouge, et ça veut dire qu'on peut parler. Tour, hein. On peut parler en donc, termes de radio.
Donc voilà, tout va bien, on a fini de faire nos petits réglages. Guy, on va parler sport.
On va passer au sport.
On va parler sport et balle jaune d'ici 5 minutes.
Ouais, moi je suis sur le. Je suis en ce moment, c'est le tennis sur la table.
Oui, mais d'après ce que tu m'as dit, c'est la petite balle bleue alors. Ou blanche. Comment elle est?
Elle est blanche, mais c'est sur table bleue et c'est sur fond bleu. Tout est bleu en Angleterre.
Ouais. Ah oui, c'est en Angleterre.
C'est à Wembley, ouais. Pour les 100 ans des championnats du monde de tennis de table. Ils ont 100 ans cette année. Et comme assez bizarrement, enfin bon, on va pouvoir parler du tennis après. Assez bizarrement, sûrement que les gens le savent ou pas, le tennis de table n'a pas été inventé par les Chinois.
Non.
Il a été inventé par les Anglais, comme beaucoup de sports.
Les Anglais ont inventé le rugby, le machin, le football.
Et donc les Chinois l'ont repris à leur compte, par rapport quand les Anglais étaient sur place, avaient colonisé ces pays, et donc, mais voilà. Mais ce sont les Anglais. Donc, les championnats du monde de tennis de table ont été inventés par les Anglais, et ils ont 100 ans cette année, et donc c'est pour ça qu'ils ont lieu à la nouvelle salle de Wembley, à Londres.
Oui, Londres, très belle ville en Angleterre.
Oui.
Enfin, très belle ville, ça dépend pour qui.
Oui, non,
moi, personnellement, je n'irai pas, mais ça n'engage que moi. Hein.
C'est une capitale, voilà.
Oui, et nous, on est... Moi, je suis juste capitaine de chez moi, et ma capitale, moi, c'est le Bouscat, quoi. C'est,
le Bouscat.
C'est la ville, quoi.
Ah oui.
J'embrasse mon président Lidio Ferreira. Je lui fais passer un message gentiment. S'il pouvait me rappeler concernant le déplacement de dimanche à Niort, ça serait sympa. Voilà, bisous l'idiot. Voilà. Parce que la première du Bouscat joue un match très important.
Très important.
Dimanche à Niort concernant l'accession au régional 1, anciennement appelé DH.
D'accord. Ok.
Donc, l'avenir de notre équipe senior, enfin l'avenir. L'avenir sportif.
Sportif.
De
sportif.
Notre équipe senior.
Passe par Niort. Donc
passe par Niort.
Ce week-end.
Oui.
Ok.
Voilà.
Alors, donc moi j'ai fait ma petite parenthèse sur le tennis de
moi
table.
Aussi.
Chacun fait ses petites bricoles.
Tout ça pour revenir à nos moutons.
Donc maintenant on peut revenir à la balle jaune. Là on est au tennis.
Trois minutes encore, il nous demande.
Ouais,
donc
voilà.
On peut.
Oui, oui.
Tout ce que l'on peut dire et qui est. On va le souligner et sans. On va quand même féliciter. Oh, je parle bien. Féliciter. Le club phare de la région, les Girondins de Bordeaux,
oui.
Qui ont fait un sacré coup ce week-end,
oui, oui.
Qui se remettent plus que jamais sportivement
et
dans la course à la montée.
Un point, non ?
Oui, et je tiens aussi à féliciter tous les gens qui ont acheté leur billet pour samedi, parce que le club est en passe de battre un record pour un match de National 2. Je viens d'avoir un message de quelqu'un de très haut du club qui viennent me dire qu'on a passé la barre des 22 000 spectateurs.
Oui, oui, oui.
Pour un match de National 2, exceptionnel.
Mais bon, alors c'est vrai que...
Avec des tarifs attractifs. On parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure.
Oui, oui, oui.
C'est entre 6 et 10 euros.
C'est ça, 6 et 10 euros. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les Girondins de Bordeaux... malgré tout, reste l'un des plus grands clubs français par rapport à son histoire, et que ça a drainé des générations de supporters.
On le voit encore aujourd'hui.
Puisque nous, nous sommes là en tant que supporters, mais nos parents ont été supporters ou sont supporters, nos grands-parents également. Donc ça fait plusieurs générations que cette passion du club des Girondins de Bordeaux se transmet de génération en génération.
Et encore, heureusement.
Et on voit qu'il y a encore du monde, beaucoup de monde, qui s'intéresse aux Girondins de Bordeaux. Parce qu'il y a eu une histoire. C'est un club mythique.
Et pour l'intérêt général, y compris de la ville de Bordeaux, pour l'intérêt de tous, il faut que le club remonte à haut niveau.
Mais oui,
on le voit au rugby.
Mais
tout le monde, pendant des années, je me rappelle les discussions de comptoir, comme on dit, Tout le monde, pendant des années, me disait, Alexis, toi, t'as pas connu, nous, on a connu le grand Stade Bordelais, le grand Bègle.
Et oui.
Tout le monde parlait d'un grand club de rugby à Bordeaux.
Et
on l'a aujourd'hui.
Nous l'avons.
On attend aujourd'hui le retour des Girondins au premier plan.
Voilà, mais bon, là, il va falloir quelques années quand même. Hein. C'est pas l'année prochaine.
Non, mais étape par étape.
Étape par étape, match par match.
Et c'est à souligner, c'est ma petite marotte. Je sais que mon père m'écoute et il sait ce que je vais dire. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ça soit chez les filles ou chez les garçons, c'est trois personnes du club, qui s'occupent des équipes Fagnon.
C'est bien.
Donc on en revient à l'amour de ce club et à la passion que ça peut drainer.
Alors c'est vrai. Bon, d'un autre côté, bon, mais après, il a eu sa carrière professionnelle. Mais enfin, les meilleurs, je ne sais pas si c'est les meilleures années, mais si c'est les meilleures années de ma vie bas, il les a eues à Lille. Il ne les a pas eues à Bordeaux.
Comme enfin, je disais,
en tant que joueur.
Comme je disais à un copain à moi, que je ne citerai pas, certes, pour moi, ce n'est pas une légende du club, mais c'est un enfant du club, il est formé.
Oui, voilà, mais bien entendu.
Voilà.
Il a été formé, d'accord,
voilà.
Au Girondin. Mais...
Comme Antoine Vergès,
oui,
qui est son
d'accord.
adjoint, ils sont de la même génération.
D'accord, ah, d'accord.
Donc voilà.
Okay. Oui, oui.
Donc, et Romain Vitry chez les filles, pardon,
ah,
qui est éducateur depuis les 8.
Ouais, ouais, ouais.
Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête des seniors. Donc,
c'est comme ça. C'est comme ça qu'on voit, avec les clubs anglais notamment, qu'on voit que ces clubs perdurent.
Oui.
Parce qu'ils ne renient pas leur passé, ils mettent les gens du club, voilà, jusqu'au plus haut niveau. C'est toujours les anciennes du club qui permettent de faire évoluer le club au plus haut niveau.
Alors Guy, on va passer de la balle ronde à la petite balle jaune. Jean-Baptiste Perlan est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Bonjour.
Et encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, comme l'année dernière.
Avec plaisir, je t'en prie.
Alors Guy, vas-y pour la première question.
Oui, mais la première question, bon, on a vu ça rapidement, mais encore une fois, un beau plateau pour cette semaine de Primrose.
Écoute, oui, un très beau plateau, et j'espère que c'est pas fini, parce que... j'espère normalement avoir la confirmation que Moïse Kouamé sera bien présent pour le tournoi. Donc
ah
ça,
oui.
c'est aussi une belle nouvelle puisque Moïse, comme vous savez, est quand même l'espoir numéro un du tennis français, qui a déjà gagné des matchs dans les grands tournois, qui a déjà battu des joueurs dans le top 100, qui vient juste d'avoir seulement 17 ans.
Oui.
Donc
ouais.
Moïse a fait une demande de wildcard, donc on est en train de voir avec la fédération et moi-même si on lui accorde dans les qualifications ou dans le tableau final. Mais quasi sûr, Moïse sera présent. Je pense que je le confirmerai d'ici demain. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Pour être aussi tout à fait transparent, j'ai eu une demande de wildcard d'Arthur Rinderknecht, qui est le numéro 2 français et qui est numéro 24 mondial.
Oui.
Donc ça fait partie aussi des très belles nouvelles, et on va essayer j'espère, de faire en sorte qu'il puisse jouer le tournoi. Donc on a déjà un très beau plateau. J'ai eu tout à l'heure aussi des messages de Benjamin Bonzi, de Lucas Vanaché, qui m'ont confirmé bien qu'ils avaient réservé leur hôtel et leur chambre. Donc voilà, tout se prépare bien et les joueurs ainsi nous confirment bien leur participation. J'espère aussi qu'il n'arrivera pas de soucis d'ici là à notre l'une des têtes d'affiche, donc Dimitrov, le joueur prestigieux, Grigor Dimitrov, que tout le monde connaît et que tout le monde attend.
Oui.
Oui. Voilà la question, Jean-Baptiste. Est-ce qu'aussi, vous parlez Dimitrov, d'accord, mais est-ce qu'aussi vous êtes dépendant de ce qui se passe à Rome là sur les 15 prochains jours?
Ah oui, forcément, puisque certains joueurs qui sont engagés chez nous le sont aussi à Rome, donc ça va dépendre de leurs résultats. On sait qu'un joueur du tableau final de Rome qui passerait deux voire trois tours là-bas serait contraint de se retirer de chez nous. Donc ça, on sait que c'est que c'est la règle de départ. C'était le cas déjà depuis 3 ans. Donc il y aura forcément dans le lot quelques joueurs qui auront passé des tours là-bas qui se retireront. Mais notre liste de joueurs est tellement fournie et tellement dense, je dirais que on gardera quand même toujours un plateau très relevé et très attractif pour cette édition. Ouais.
Alors, autre question, bon, j'ai été à la conférence de presse, donc je sais, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles sont les nouveautés pour cette année?
Alors, cette année, les nouveautés, on a une quatrième soirée, donc une quatrième, comme on l'appelle, une night session.
Oui.
Donc une session de soirée, c'est-à-dire un match à 20h. On programme, voilà, ça c'est ce qu'on a mis en place depuis déjà depuis deux éditions, puisqu'on avait mis aux normes l'éclairage sur le central. Donc on peut jouer des matchs en soirée avec l'éclairage. Et ça fait beaucoup au grand public. On a des, donc du mardi jusqu'au vendredi inclus, on aura une night session, donc un programme journée et un programme soirée.
Dont un quart de finale aussi, alors. Le vendredi.
Dont un quart de finale, ouais, exactement, dont un quart de finale le vendredi. On a fait des grands travaux pour réaménager les terrains. En fait, on avait un court de match qui n'était pas vraiment aux bonnes mesures, je dirais, des distances qui sont réglementaires par l'ATP. Donc, on a fait des grands travaux pour réaménager un peu les terrains de devant, qui sont devant le clubhouse. Mmh. Donc, on aura les deux courts annexes qui seront devant la villa. Donc, les deux courts de match autres que le central. Donc, ça fera du coup une billetterie qui permettra de suivre les deux courts annexes. Donc ça sera aussi super pour le grand public de pouvoir voir voilà le cours central bis et le troisième cours de match. Ensuite, tout au long de la semaine, encore des animations. On a une fan zone pour venir se restaurer, pouvoir boire un verre, suivre les matchs éventuellement sur grand écran, faire une petite pause du cours central. On aura le cours numéro 1 aussi, qui est un peu la vitrine, juste devant le clubhouse, qui sera le cours d'entraînement des têtes d'affiche. Donc, on a mis aussi aux normes qu'on a agrandi et élargi. Donc, on aura ce beau cours que les gens aiment bien, puisqu'on y met vraiment les joueurs les plus renommés qui viennent s'entraîner devant. Donc, on est vraiment tout proche de ces joueurs qu'on peut venir voir comme ça gratuitement, puisque cette zone est accessible même sans billets pour les matchs. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de maintenir aussi, c'est-à-dire maintenir un accès pour tous, pour que les matchs, évidemment, sont il faut être muni d'un billet pour aller voir les matchs. Par contre, les joueurs s'entraînent et sont accessibles comme ça gratuitement. Donc ça, je sais que ça plaît beaucoup aussi au grand public.
Autre question, on sait que ça a été le cas l'année dernière. Au niveau des médias, comment ça va se passer cette année?
Alors les médias, donc les matchs seront diffusés sur l'équipe live, puisque Tennis Channel en fait a les droits. Tennis Channel relaie tous les matchs à l'étranger. Donc il y a vraiment des, par exemple les États-Unis, c'est un pays qui très dynamique, je dirais, dans la diffusion du tennis. Donc les matchs sont relayés là-bas aux États-Unis via Tennis Channel, et en France c'est sur le site l'équipe live.
D'accord.
Donc je pense que beaucoup de gens ont le...
Voilà, oui, je connais parce que...
Donc ça va bien marcher.
Ils ont récupéré le mon sport qui est un peu... c'est du tennis sur la table, quoi. Voilà, donc ouais. ils ont récupéré les droits de la WTT de tennis de table pour 3 ans, là, l'équipe live. Et là, en ce moment, je regarde les championnats du monde à Wembley, là, à Londres, quoi.
Donc, effectivement. Bah,
c'est vrai que bah, quasi tout le monde un peu qui suit le sport a donc cette application de l'équipe, et on peut suivre donc les matchs en direct sur l'équipe live. Donc ça sera super pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir venir ici. Ouais.
D'accord.
Et au niveau des manifestations prévues, j'imagine que le mercredi, par exemple, il y aura des scolaires. Et par rapport au tennis fauteuil, par exemple, aussi?
Oui, alors on est en train de mettre en place des animations de tennis adapté.
D'accord.
Donc on est en lien avec notamment le club du Bousca.
Ah oui.
Parce que Denis est aussi assez moteur pour mettre en place cette activité. Donc on est en train de réfléchir pour la fin de semaine, de voir comment est-ce qu'on peut mettre à l'honneur nos joueurs de tennis fauteuil. Le mercredi, on aura une grande journée dédiée pour les enfants, tout à fait, qui est toujours un peu le rituel, je dirais, du tournoi. Donc avec des animations, des signatures d'autographes sur le stand de notre partenaire titre, la BNP Paribas, des signatures d'autographes et des selfies entre les joueurs et les jeunes, des échanges de balles. Il y a quelques jeunes qui sont sélectionnés pour venir taper des balles avec les champions du tournoi. Et ensuite, un grand goûter qui suit. Un tirage au sort sur le site de la Ligue le stand de la Ligue de l'Aquitaine en fin de tirage au sort qui sera effectué par un joueur du tournoi pour des lots qui sont aussi à gagner par les jeunes. Donc voilà, plein de choses tout au long de cette grande journée du mercredi. On croise les doigts évidemment pour qu'il fasse beau, pour accueillir tout le monde dans des bonnes conditions. Voilà, pour cette belle journée, ouais.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que, par rapport à la météo, est-ce que vous avez prévu des choses différentes par rapport à l'année dernière ou des travaux, je ne sais pas. Dites-nous.
Des situations de repli.
Voilà.
J'ai prévu du beau temps. C'est ça que tu veux dire. si j'ai prévu du beau temps. Écoute, ça, c'est le sujet. Écoute, c'est vrai que tout le monde m'en parle. Je leur dis, non, moi, je ne regarde pas la météo. Je m'adapte en fonction. Mais c'est vrai qu'on a, écoute, on a des bâches, on a des bâches pour couvrir les terrains. Donc, on a 4 cours bâchés. Tu vois, les 3 cours de match ou plus un cours d'entraînement. Donc, ça, c'est bien parce qu'on peut, à la moindre averse, on peut essayer de couvrir les terrains pour ensuite, dès que ça s'arrête, pour essayer de les débâcher et que les matchs puissent reprendre très rapidement et que les joueurs s'entraînent dans les bonnes conditions. L'avantage aussi à la Via Primero, c'est qu'on a des cours couverts sur la battue. Oui. Donc ça aussi, les joueurs sont friands. Dès qu'il pleut un peu, les joueurs vont s'entraîner sur les terrains couverts d'abattus. Ensuite, quand le superviseur de l'ATP décide qu'il est temps de lancer des matchs en salle, si on a pris un peu de retard, on les lance aussi. Donc ça aussi, c'est un peu le confort, je dirais, d'organiser ce tournoi-là dans une enceinte, dans un club comme le nôtre, avec à la fois une qualité de terrain extérieur et couvert. Pour pouvoir voilà lancer des matchs dès qu'on le peut. Voilà, écoute, on s'adapte, on sait qu'on a cette contrainte du temps et on fait en sorte que le programme des jours aussi soit dispatché, je dirais, sur 3 terrains. On a des conditions et du matériel qui nous permet quand même de réagir, d'être réactif. Des équipes aussi de jardiniers. J'ai une équipe de 4 personnes dédiées sur chaque terrain de match pour pouvoir, voilà, comme je dis, anticiper le bâchage et le débâchage, pouvoir reprendre les terrains, pouvoir colmater un peu les éventuels trous, flaques sur les terrains. Donc non, j'ai des équipes très compétentes et prêtes à réagir. Mais c'est vrai que quand on joue un tournoi sur dur indoor, il y a beaucoup plus de confort que sur ta battue extérieure où l'aléa du temps est toujours très présent. Ouais.
Et dans l'exemple où il pleut et vous faites des matchs en intérieur, ça implique quoi au niveau du public ?
Ça implique de choisir justement, c'est ça qui est pénible, de choisir qui a le droit d'accéder et qui n'a pas le droit. Quelles sont les personnes à qui on va rembourser les billets si aucun match ne s'est déroulé dans la journée en extérieur. Ça implique de déménager les écrans, les caméras,
l'organisation.
Non, c'est très contraignant.
Ah oui, d'accord.
C'est pour ça qu'on souvent ce qu'on fait, c'est qu'on lance plutôt des matchs de double dans un premier temps où il y a, moins d'enjeux et on peut facilement lancer les genres de doubles qui sont plus enclins justement à vite jouer plutôt que d'attendre plusieurs jours s'il le faut. Mais c'est vrai que moi j'ai un mauvais souvenir de cette finale 2012 où il a plu non-stop toute la journée, donc on a été obligé de lancer les matchs le soir en salle parce qu'on avait estimé qu'il était moins contraignant de lancer le soir que de reporter au lendemain. Puisque le lendemain, il faut aussi faire revenir des bénévoles pour nous aider à gérer, les arbitres, les juges de ligne, les lanceurs de balles, toutes les équipes. Donc on avait lancé en salle le dimanche soir et heureusement, je dirais, dans notre malheur, l'affiche n'était pas très attractive, il n'y avait pas de joueurs français, donc les gens étaient au fil de la journée et étaient partis, donc on avait fait un peu comme on a pu, mais c'est vrai que c'est pas un très bon souvenir et si on peut quand même jouer le tournoi à l'extérieur, c'est quand même plus favorable.
Ouais. Vas-y, Guy.
Oui, alors je disais, ça c'est une, en tant que passionné de tennis, c'est une réflexion peut-être personnelle, mais enfin, en ce qui concerne le tennis actuel, des tournois comme Primrose, vous avez peut-être plus de chance parce que franchement, à force de voir en finale Sinner mettre des branlées à tout le monde, comme encore à Zverev ce week-end où il y a 6-1, 6-2, eh bien on a de moins en moins envie de regarder le tennis. Donc on préfère regarder d'autres joueurs et donc qui sont notamment à Primrose.
Ouais, c'est vrai. Après, Sinner, Cassie Sinner, évidemment, c'est le numéro un mondial. C'est un joueur qui est au sommet et qui a qui trouve le moyen quand même encore de progresser, soit là que ce soit possible. Mais c'est vrai que c'est les matchs de Sinner deviennent ouais, déjà que c'est un joueur. Alors moi, je, évidemment que j'admire le grand champion qu'il est, mais
oui, voilà,
parfois est un peu ennuyeux. Mais c'est vrai que tu vois, dans ce genre de tournoi, le niveau est très dense, très resserré. Il y a beaucoup de très belles parties,
voilà.
De belles surprises aussi. Oui. Et je pense que c'est aussi ce qui plaît en public. On a
et voilà.
C'est ce qui fait aussi le charme de nos tournois. Donc écoute, si on pouvait rester sur la même lignée que les précédentes éditions où les Français brillent, jouent bien, on a un Français qui est en finale, on a des têtes de série qui performent et des belles surprises, qu'elles soient aussi françaises comme étrangères. Moi je signe tout de suite. Hein. C'est vrai que on est sur une belle lancée de notamment trois dernières éditions qui ont été assez dingues avec trois des meilleurs joueurs français du moment qui sont donc au palmarès du tournoi. Avec donc Hugo Humbert, Arthur Fils et donc Giovanni Petit dernière.
Oui, voilà.
Donc croisons les doigts pour avoir une belle édition un peu similaire aux trois précédentes.
Alors l'année dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens, je m'étais amusé à te demander si tu avais fait la demande à Rafael Nadal. Alors cette année, je vais m'amuser à te faire la demande. Est-ce que tu vas demander au Grec Stefanos Tsitsipas? Parce que
certes, il est en forme.
Certes, il a fait un bon tournoi de Madrid, mais on le voit pas trop. Donc, est-ce que tu as fait la demande ou tu as dit non, je le ferai pas? Dis-nous tout.
Alors, pour te dire, bien sûr que je fais la demande parce que ça ne coûte rien de demander. Et au pire, évidemment, le joueur te dit c'est gentil de penser à moi, mais non, je mettrai pas le point de Bordeaux à mon programme. Donc oui, je l'ai approché via d'ailleurs Steve Darcis.
Oui.
Steve Darcis qui a été un très très grand joueur belge et qui est le capitaine de Coupe Davis de l'équipe belge et qui entraîne Collignon, Raphaël Collignon qui va venir jouer le tournoi.
Oui.
Et Steve, je l'ai approché pour lui demander s'il connaissait Tsitsipas, s'il avait le contact de son entraîneur ou de lui-même et s'il pouvait lui passer un petit message. Tu vois, donc il a contacté le père de Tsitsipas et son préparateur physique qu'il connaît. Donc voilà, donc ils ont un petit peu échangé et ils ont gentiment répondu que pour l'instant c'était pas forcément dans son programme et que ça pouvait peut-être évoluer si le tournoi de Rome se passait pas comme il le souhaitait, mais on sait qu'il y a quand même forte chance que ça soit pas le cas, mais moi je tente tout ce que je peux tenter. J'ai aussi tenté avec Dimitrov et ça a marché.
Oui.
Donc voilà, après je vais être très attentif à ce qui va se passer à Rome et des joueurs comme Tsitsipas, comme Rude.
Oui. Ah oui, même.
Forcément.
Oui.
Ah oui, c'est vrai que maintenant vous pouvez approcher Rude, c'est vrai.
Ouais, forcément, c'est des grands champions qui auraient peut-être besoin de venir jouer des matchs supplémentaires avant Roland Garros, qui seraient peut-être tentés de venir prendre une ici une wildcard si ça se passait pas comme il souhaitait à Rome. Donc évidemment qu'on suit tout ça. J'ai même sollicité Rune, tu sais.
Rune.
Parce que j'ai vu qu'il avait envisagé de faire son retour sur le circuit la semaine suivante, c'est-à-dire à Hambourg.
D'accord.
Donc j'ai contacté son agent que je connaissais bien puisque c'était l'agent aussi d'Andy Murray il y a quelques années, donc avec lequel j'avais échangé pour ça.
Qui était venu, oui.
Et donc son agent m'a répondu très gentiment que ça allait être déjà que ça allait être sûrement trop juste pour qu'il puisse reprendre à Hambourg et que Bordeaux malheureusement ça l'aurait bien tenté mais que il n'était pas encore suffisamment rétabli.
Oui, mais alors par contre moi ce qui me plaît actuellement comme dans beaucoup de sports d'ailleurs, il y a énormément de jeunes talents qui débarquent de partout quoi. Parce que là, on voit le Belge là, Bloch là, ou pareil, qui arrive. Il y a plein de jeunes. On voit des matchs parfois, on connaît pas les joueurs et on voit du beau tennis.
Non, mais Bloch, moi, ça fait longtemps que je le suis parce que
oui, d'accord.
Parce que c'est un joueur belge et Steve Darcis m'en avait dit déjà le plus bien il y a 2-3 ans.
D'accord.
Voilà, lui, il a vraiment tout d'un futur crack. Il sert très bien. Il est grand. Il a vraiment le profil du joueur moderne de tennis qui sait tout faire et qui pourra aller très haut. Et voilà, donc tu vois, je suis pas surpris de le voir là. Je pense qu'il a un très bel avenir.
Ouais, mais parce que toi t'es dans la partie, mais moi qui sommes téléspectateurs, spectateurs amoureux du tennis, bon, on le découvre un peu plus, quoi, comme d'autres d'ailleurs, voilà. Donc bon, et je trouve, je suis plus intéressé par ces matchs. Maintenant, je regarde plus souvent des matchs de tennis où je connais pas les deux joueurs. Et ben, avant, je me disais, oh, cela, je les connais pas, je regarde pas. Maintenant, et ben, je m'y intéresse parce que tu vois de nombreux jeunes joueurs qui sont très bons quand même. Bon, alors bien sûr, Arthur Fils, n'en parlons pas. Maintenant, on l'a vu quand même depuis quelque temps en grande forme, quoi.
De toute façon, moi, ce qui me choque presque, c'est le niveau, à quel point chaque année le niveau s'élève encore. C'est-à-dire que la densité, la qualité, enfin tous ces joueurs aujourd'hui, maintenant, sont des athlètes vraiment remarquables. C'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui la différence entre le champion et le grand champion, c'est ses qualités athlétiques et ses qualités mentales. Les joueurs savent tous très bien joué au tennis, hein, ils servent tous très bien, ils servent tous très fort dans la balle, c'est hallucinant. Et après, voilà, celui qui va être capable de tenir tout un match, de rester régulier, d'enchaîner aussi d'enchaîner les parties, de maintenir un niveau de qualité athlétique et technique, c'est
technique, bon, voilà.
C'est assez affolant que le curseur continue de s'élever et un joueur, enfin moi je vois, hein, les joueurs 120e, 130e, oui. Le niveau aujourd'hui est vraiment dingue.
Ouais. Moi j'ai deux questions qui me viennent là. Pour revenir au tournoi purement, est-ce qu'il y a des joueurs du club qui vont faire les tours de qualif ou même le tour principal?
Bien sûr, on a Pierre Hugerbert qui sera là, qui fera le tableau final de double et qui pour l'instant est dans les qualifications.
D'accord.
À avoir pour une wildcard, mais je pense pas qu'on ait suffisamment de wildcard pour lui en donner une. On aura aussi Hugo Grenier.
Oui.
Donc Pierre Hugerbert, Hugo Grenier. Il y a aussi Pierre Delage qui fera les qualifications.
Oui.
Pierre Delage qui est membre du club et qui s'entraîne ici à la Villa Primorce tout au long de l'année. J'espère normalement la quasi-totalité des joueurs de l'équipe première de la Villa Primorce seront présents pour jouer le tournoi. Ouais.
Deux questions concernant la billetterie. Est-ce qu'il reste des billets pour tout au long de la semaine ou pour la finale c'est déjà fini? Pour les quarts aussi, dis-nous tout.
Ouais, il reste des places, mais on se rapproche du sold out parce que j'ai vu là qu'on était à 80% de remplissage pour les sessions journée et 85% de remplissage pour les sessions soirée. Donc, tant mieux pour nous parce que c'est vrai que c'est un grand enjeu pour nous au niveau aussi de notre budget parce que je vous cache pas qu'avec l'augmentation qu'on a eue de prize money très importante, l'ATP nous impose évidemment le prize money donc, on a une très forte hausse qu'il faut supporter bien sûr et qu'il faut financer. On a aussi, comme je disais, engagé des gros travaux qu'il faut financer. Des grands travaux déjà il y a 3 ans pour mettre aux normes la lumière. Ensuite, on a agrandi le cours central. Là, cette année, c'est les cours annexes qu'on a augmenté, enfin qu'on a agrandi de nouveau. Donc tout ça, chaque année, c'est des coûts importants. Qu'il faut financer. Donc c'est vrai que la billetterie pour nous est un gros enjeu pour arriver justement à rentrer un peu dans les clous en termes de budget, recettes, dépenses. Ouais.
Et sur les sessions de nuit, de soirée, pardon, par rapport à ce que tu nous as annoncé depuis tout à l'heure, on imagine donc que Dimitrov fera partie des sessions de nuit pour faire venir du monde ou pas?
Eh bien écoute, il y a de fortes chances que Dimitrov fasse partie des matchs phares de la soirée. Mais après, ça dépend parce que il n'y a qu'un match que je peux faire jouer le soir.
Tout un programme.
Donc après, et puis j'ai aussi des joueurs qui me demandent, j'ai des joueurs qui n'aiment pas jouer le soir, qui préfèrent jouer plutôt en journée, plutôt le midi ou plutôt l'après-midi, qui aiment bien le soir, qui sont des cousteaux. qui aiment bien être au lit à 22h. D'autres me disent qu'ils aiment bien jouer le plus tard possible. Tu vois, donc si j'ai une tête d'affiche, un joueur que je veux vraiment essayer de préserver, de bichonner, et qui me dit s'il te plaît, ne me fais pas jouer le soir.
Oui.
Bah, je suis un peu coincé. Je vais quand même essayer de l'écouter, de faire en sorte d'aller un petit peu dans son sens. Donc tout ça aussi, je le prends en charge, je prends en compte moi dans mes réflexions et dans ma programmation du jour, avec ce que les joueurs aiment aussi en termes de programmation et d'horaire de match. Ouais.
Et justement, par rapport à ce que tu nous as dit, si tout se passe bien, les sessions de soir démarraient à 20h, mais le plus tard, vous vous donnez jusqu'à quelle heure ?
En fait, le plus tard, c'est que si pendant la journée, il y a eu des averses, qu'on a pris un peu de retard, que les matchs ont été décalés, il se peut, comme ça a été le cas, alors peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, qu'on démarre une night session à 21h.
D'accord.
Voire 21h30, mais l'idée, c'est quand même de la jouer le soir, sous réserve que la fenêtre météo soit plutôt correcte. Mais voilà, donc c'est pas avant 20h, c'est-à-dire que le match ne démarrera pas, quoi qu'il arrive, ne démarrera pas avant 20h. Et après, si on a pris du retard, si le match d'avant n'est pas encore fini, ou s'il y a eu une petite averse, on peut décaler à 20h30 ou 21h. Si le temps se libère un peu.
Dernière question, et je vais te laisser le mot de la fin. Donc du coup, tu as l'air confiant, même si on ne parle pas de la météo, tu as l'air ravi donc, du tableau que tu nous présentes. Tu nous dis donc qu'il y a les meilleurs joueurs français qui devraient être là. Quel message tu enverrais aux auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas encore leur billet pour la semaine ?
Ben, je leur dirais surtout de vite se dépêcher pour aller sur la billetterie du tournoi qui est accessible en ligne. Parce que, voilà, comme on disait, c'est un petit Roland-Garros. Il y a beaucoup de gens qui disent petit Roland-Garos et c'est pas moi qui le dis, hein, parce qu'on est très proche des joueurs, on voit du tennis de très très haut niveau, on voit des grands champions, des joueurs dans le top 30, dans le top 40 mondial, beaucoup de joueurs français qui sont vraiment très sympas à suivre, des jeunes joueurs très prometteurs. Donc, voilà. Je pense que vraiment, la Villa Primrose, le tournoi Primrose a pris vraiment de l'ampleur, une très belle dynamique et ça vaut vraiment le coup de passer un moment ici dans l'enceinte du club, de voir cette atmosphère de tennis de très très haut niveau et de voir, c'est un côté aussi un peu festif et historique. On est, voilà, c'est ce qui plaît aux joueurs, c'est ce qui plaît au grand public de que le tournoi se déroule dans ce club prestigieux et historique et qui a 130 ans d'existence. Et voilà, oui, ça a fait une belle alchimie. Et je conseille vraiment à tous de venir profiter un peu du tournoi et de venir cette semaine qui s'annonce passionnante du 11 au 17 mai.
Voilà, et bien parfait.
Mais écoute, merci Jean-Baptiste.
Merci, comme chaque année. Mais
et puis, on va surtout te souhaiter bon courage
à tout le
pour la fin de l'organisation.
Voilà, moi je regarderai ça à la télé, voilà, sans problème. Allez,
bon, au revoir, merci Jean-Baptiste.
Au revoir. À très bientôt.
Au revoir.
Merci à vous.
Ah oui, non, mais c'est toujours
intéressant. Eh bien, je trouve qu'on a fait un tour complet.
Eh bien oui, on a été complet sur le
sujet. Et on a eu
des
infos, quand même.
On a eu les infos. Non, mais
ils ont approché des gros joueurs.
Oui, oui, non, mais voilà. Mais Jean-Baptiste Perlin, on le connaît quand même depuis très longtemps, notamment grâce à Philippe Desmond. Voilà.
Qu'on salue, qui était là avant nous.
Oui, qui était là avant nous. Et c'est vrai que... moi, j'ai des rapports avec la Ligue de tennis, les clubs, depuis très très longtemps. Et c'est vrai que ce sont des gens fort sympathiques et qui sont vraiment attachés à leur sport, attachés à leur club et qui font tout pour que ça fonctionne convenablement. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance, quoi. Et puis, espérons qu'il y ait effectivement un petit peu de soleil, même si on est dans une période un peu délicate de ce côté-là.
À souligner, il ne l'a pas dit, c'est Mpetchi Péricard qui a gagné l'année dernière.
Oui, c'est ça, Mpetchi Péricard qui a gagné, oui, oui.
Qui est français.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc, bon, ben là, on a... De toutes les façons, c'est facile à voir. Il suffit d'aller sur le site de la Villa Primrose et de voir tout le plateau. Parce que je l'ai vu passer moi-même sur les réseaux sociaux déjà. Enfin, tous les noms. Parce que c'est... Tous les noms annoncés, parce qu'on sait, il nous l'a expliqué, Jean-Baptiste,
avec
Rome, etc., on n'est pas sûr qu'en fonction de leur parcours à Rome, s'ils vont venir. Mais bon, de manière générale, il y a des noms qui sont annoncés. Après, au dernier moment, il y a des ajustements. Mais enfin, quasiment tous les joueurs seront là quand même.
Et là, je vais dire un truc qui va faire plaisir à Fred, c'est pas un week-end à Rome, c'est une quinzaine à Rome.
Ah oui.
Parce que le tournoi dure 15 jours. Alors qu'Étienne Daou, c'était juste le week-end.
Ouais.
Le week-end.
Alors, mais... je ne sais pas si c'est réellement 15 jours, mais ces nouveaux formats là de Master 1000, là, c'est 12 jours, je crois.
Ouais.
12 ou 13
oui,
jours.
C'est sur deux... Oui, ouais.
C'est
chemin,
une
jour
semaine,
deux semaines.
Un peu plus. Ça ne plaît pas toujours à tous les joueurs. Hein.
Oui, parce que ça s'arrête le jeudi.
Ouais, ouais, c'est, ouais, peu... c'est ça. C'est un peu bizarre. Mais bon, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc voilà, non, mais c'est sûr. Bon, alors après c'est toujours intéressant, parce qu'il n'y en a pas énormément en France, un des grands tournois de tennis. Hein.
Après, voilà, je crois qu'à Lyon, il réouvre.
Oui, d'accord.
À Strasbourg, c'est que le tournoi féminin.
Eh ben voilà.
Comme à Primrose, c'est que les garçons.
Oui, c'est que les garçons. Ouais.
Donc,
mais,
voilà.
Mais donc, bon, mais c'est bien d'avoir quand même sur Bordeaux, quand même... un grand club qui est capable d'organiser un grand tournoi.
Il a dit aussi, il faut le souligner, la plupart des joueurs de Primrose viennent s'entraîner au Bousca et vice-versa.
Ah d'accord.
C'est deux gros clubs. Hein.
Oui, ah, oui
Bordeaux,
le Bousca, on le sait. Ouais.
À Bordeaux, il y a deux gros clubs.
Il y a deux gros clubs, oui.
Fred, vas-y.
Oui, je voulais juste préciser, parce que tu parlais de Rome juste avant, que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Oui, oh bien. Ah oh, bien.
Ah d'accord.
Bien
oui,
joué.
Oui. Mais ça s'écrit pas tout à fait pareil.
Pas mal, bravo.
Ça s'écrit pas pareil.
Mais non, ce que l'on apprend surtout, c'est qu'au final, les meilleurs joueurs français viennent.
Oui, enfin, les meilleurs. Bon, Arthur ne sera pas là, fils.
Oui, oui, mais...
Non,
oui, mais regarde. Exemple.
Mais enfin, les meilleurs, les... Oui, oui,
avant
oui,
qu'il
mais
gagne,
Arthur,
l'année
dernière,
il y a deux ans, il a gagné Primrose.
Ah ben oui, oui, non.
Donc ils y viennent
mais,
à tous.
Mais oui, oui, non. Ah non, mais ils y sont tous passés, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que si tu le compares à deux... Maintenant, il est impressionnant, le Arthur Fils. Hein. Quand tu le compares deux ans avant, il a progressé, le drôle,
il a pris,
entre guillemets.
Il a pris du...
Ah ouais. Ah oui, il sert fort, hein.
Voilà.
Et puis...
Mais,
non,
à souligner.
Mais il a gagné Barcelone hein, quand même
oui.
le dernier coup.
Oui, et il a
quand même pas mal.
Et il a fini en demi de Madrid.
De Madrid, oui.
Contre Sinner même.
Oui, contre Sinner. Non, mais c'est vrai que moi, alors, entre guillemets, il y a beaucoup de joueurs. Alors surtout de terre battue. Il y a notamment beaucoup de joueurs. Moi, j'aime bien beaucoup de joueurs argentins, notamment argentins, espagnols.
Qui
le
s'y
jeune,
mettent, oui.
Le jeune Rodard là. Rodard qui a
oui,
18
Rodard,
ans,
oui.
Qui est magnifique.
On dirait pas qu'il a 18 ans, entre
ouais,
parenthèses. Hein.
Une des futures vedettes qui va remplacer notre ami Nadal. Tu as des joueurs aussi argentins que j'aime bien, Baez, un
qui
dénommé...
Qui fait le tournoi.
Ouais, voilà. Mais, ouais, oui. Ouais. Et donc, moi, j'aime bien regarder ces joueurs. C'est assez sympa.
Les frères Cerundolo.
Donc j'aime bien ces joueurs parce qu'ils ont un beau jeu sur terre battue, ils sont assez sympas
à souligner également que cette, bon, c'est un autre tournoi, on en parlera parce qu'on a dit qu'on irait jusqu'à fin juillet, donc ça nous laisse du temps.
Oui.
Mais que pour Roland Garros qui arrive dans 3 semaines.
Oui.
Un mois, pardon, je ne sais plus.
Oui, oh, ils sont...
C'est à cheval.
C'est à cheval, hein, ça va être...
Notre ami Carlos Alcaraz est forfait.
Est forfait, ben oui, avec son poignet, hein, il s'est fait opérer du poignet.
Et j'oublie, Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il nous écoute, j'ai oublié de lui poser la question, et j'en suis désolé parce que certains me l'ont demandé là par SMS, on n'a pas parlé de Gaël, mon fils.
Oh, Gaël, oui.
Qu'aurait pu être une éventualité.
Oui, voilà, qui fait sa tournée d'adieu. Oui, oui, oui.
Il aura une grande soirée, apparemment.
Oui, à Roland-Garros.
À Roland-Garros.
Il va y avoir la fête, là.
Avec DJ
et
tutti quanti.
Oui, oui, là, il va y avoir une grande soirée à Roland, oui.
Est-ce que, pour revenir à Roland, est-ce que ça permettra à Yannick Sinner de remporter Roland-Garros?
Oh, ça, mais...
Rien n'est moins sûr.
Rien est moins sûr, mais bon. Mais si tu veux, moi, ce que j'aime pas à la longue, c'est que tu es tellement sûr. Bon, mais c'est vrai, mais il est super fort, il progresse
dans
encore.
Dans ces cas-là, on regarde les premiers tours. Effectivement.
Et bien voilà,
ce que
parce
tu veux
que,
dire.
Et bien parce que, bon, Sinner, c'est magnifique ce qu'il arrive à faire. Il est sympa, il est grand, il est beau.
C'est pareil dans tous les sports. Hein.
Ouais, mais non, pas tant que ça. Pas dans les sports collectifs.
Hein, dans enfin, les sports en Ligue des collectifs. Champions, c'est souvent les mêmes à la fin.
Oui, mais bon, c'est souvent les mêmes à la fin. Mais enfin, on a vu tellement de beaux matchs différents d'ici la fin que bon, si à la fin, t'as les meilleurs, pourquoi pas. C'est sûr que tu retrouves toujours les mêmes noms au final. Mais et c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, quand même.
Non, c'est vrai.
Alors que là, Sinner, il progresse tellement, il écrase vraiment la concurrence, et puis il n'a pas fini de progresser, que bon, mais au final, quand tu veux te faire plaisir, moi aussi je l'aime bien, Alexander Zverev, c'est vrai, moi j'aime bien ce gars-là, et puis moi, j'aime bien parce que bon, ce gars-là, il arrive quand même à être à très haut niveau avec ce problème de diabète.
Tout à fait.
Je suis attaché à ça, parce que malgré son problème, qu'il arrive à gérer convenablement, il arrive à jouer à très haut niveau. Mais bon, je savais, j'ai même pas regardé la finale, quoi. Je savais que ce qui allait se passer, quoi. 6-1, 6-2. Allez, hop, terminé. Allez,
je reconnais que j'ai regardé la demi, Arthur, parce que c'était Arthur.
Ouais, voilà.
Parce que sinon, je n'aurais pas regardé.
Non, mais c'est ça.
Et après, il y a juste une dernière chose. C'est pour juste parler du tournoi Primrose. C'est que quand je parlais des joueurs français, c'est que si tous les meilleurs joueurs français viennent, c'est que quand même le tournoi, comme l'a dit Jean-Baptiste, est en progression.
Oui, est en progression. Et alors, je pense aussi, c'est souvent très important pour les joueurs, c'est que il y a autour de Jean-Baptiste, il drive une équipe
exceptionnelle.
De gens qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute des joueurs, qui doivent faire un travail formidable pour que les joueurs, en fait, se sentent bien à Primrose pendant une semaine et donc ils ont envie de revenir l'année d'après. Mais c'est important aussi.
J'ai eu la chance, l'année dernière, d'assister à la night session entre
bon joueur,
et Hugo Gaston.
Oui.
Hugo Gaston qui s'était incliné d'ailleurs en 3-7. Mm-hmm. Hugo Gaston, tu peux discuter avec lui dans le club pendant une demi-heure sans problème.
Mais oui, ouais, c'est des gars sympas.
C'est quoi. Voilà, ils se Wawrinka et
et
quelqu'un d'exceptionnel.
Ouais, voilà, ouais.
C'est plein de choses comme ça qui.
Ouais, qui. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais bon après les joueurs sont abordables. Hein,
et
souvent,
de toute façon, il a parlé de Pierre-Hugues Herbert.
Pierre-Hugues Herbert, oui.
Oui, j'arrive pas à le dire, mais tu l'as dit mieux que moi. On aura l'occasion d'avoir Jean-Baptiste, parce que Pierre-Hugues Herbert, l'année dernière, a fait remporter à Primrose le tournoi, le championnat de France Interclub.
Et oui.
Les finales avaient lieu. Il y avait Richard Gasquet qui était présent et Tutti Quanti. Ça fait deux fois que je le dis.
Oui.
Tic de langage, là, ça y est. Donc voilà, c'est à souligner que donc en Gironde, on a quand même un beau club, des beaux clubs de tennis.
Ah oui, le tennis marche bien en Gironde. Hein, oui, en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, quand même.
À souligner que on l'a eu au mois de novembre l'année dernière, rappelle-toi Guy, ou décembre, je ne sais plus. Ou cette année, par rapport au tournoi junior, au Bouscat, le tournoi international junior.
Ah oui.
Tu te rappelles ?
Oui,
voilà, avec les meilleurs espoirs du tennis mondial, et avec une nouvelle fois sur terre battue, nos amis espagnols, bien sûr.
Les espagnols. Et donc...
Et Julien Escudé, qui vient souvent au club.
Julien Escudé, qui...
Alors, est-ce qu'il est directeur technique pour la DTN ? Je ne sais pas.
Il a été à une époque, je ne sais plus où il en est, maintenant tu le vois plus souvent sur...
On le voit sur les zones, cours, en tout cas.
Sur les zones, il est consultant pour Eurosport, pour les matchs de tennis.
Et Santoro pour Beansport.
Oui, pour Beansport, oui. Et Beansport fait les filles.
Beaucoup.
Fait les féminines. Oui, fait que les féminines.
Oui.
C'est-à-dire que là...
Sauf Wimbledon, je crois.
Ah oui, sauf Wimbledon.
Ils ont acheté,
oui. Oui. Mais là, en ce moment, par exemple, on l'a vu là pendant...
La WTA.
Voilà, la WTA. C'est-à-dire que Eurosport avait les hommes, les masculins, et Beansport faisait les féminines à Madrid. Voilà. Bon, et donc... mais c'est bien de voir... Mais il y a plein, actuellement... plein de jeunes qui montent comme ça, qui sont formidables.
Mais je me rappelle de l'interview de l'année dernière où Jean-Baptiste nous disait que Le problème, entre guillemets, du tennis français, c'est qu'on a des joueurs de niveau homogène. Il n'y en a pas qui se détachent.
Oui, d'accord. Oui, oui,
et ça se confirme, même si Arthur Fils est en forme aujourd'hui, ça se confirme quand même. Et chez les filles, on est un petit peu en difficulté.
Chez les filles, ça c'est sûr, on est un petit peu en difficulté. Mais alors, d'un autre côté, chez les filles, il n'y a rien de très homogène, même au niveau mondial. T'as vu la finale là, à Madrid, on s'est retrouvés avec deux joueuses. Avec des noms un peu bizarres, mais qui n'étaient pas... Bon, une qui a battu Sabalenka, quand même.
Oui, Baptiste, l'Américaine.
Oui, il y a eu Baptiste qui a perdu après contre celle qui a été en finale.
Kostiuk, tout à fait.
Qui a gagné...
Kostiuk-Sabalenka, c'est pas ça?
Non, mais en finale, non. Sabalenka, elle n'est pas arrivée en finale, elle a perdu.
C'était Kostiuk contre...
Je
ne sais plus.
Voilà, je ne sais plus non plus. Donc,
mais tout à fait. Voilà, Kostiuk, l'Ukrainienne, tout à fait.
Voilà, oui. C'est ça, donc... Le niveau, enfin, on est moins... On sait chez les hommes que Sinner va toujours arriver au bout et va gagner. S'il y a Alcaraz, on va arriver à une finale Alcaraz-Sinner, souvent. Mais chez les féminines, c'est plus diffus.
Alors, je salue Johan qui a cru que je participais au tournoi Primrose. Non, non, on avait juste en interview Jean-Baptiste, directeur du tournoi, avec qui j'ai pu discuter lors de la conférence de presse... la présentation du tournoi.
Qui avait lieu
donc on a sympathisé. Mais tu ne me verras pas sur un court, hein, Johan. Je préférerais encore monter sur un fauteuil de rugby. et je t'invite à écouter la première heure qui risquerait de t'intéresser fortement. N'est-ce pas?
Laquelle?
La première heure où on a parlé des fauteuils.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
J'invite Johan à écouter la première partie où on a parlé.
Où on s'est lâché un petit peu.
Débats sociétal qui ont plu à Fred. Et voilà. J'ai reçu plein de messages. Papa, j'ai vu tes messages aussi, t'inquiète pas. Donc les gens nous écoutent, enfin, même s'ils sont que trois, nous on est contents.
Hein. On est contents.
Mais c'était important de faire une grosse page tennis.
Oui.
J'ai articulé bien, ouais, c'est bon. parce que c'est à côté de chez nous, c'est une fois par an, c'est pas. Donc voilà. On va arriver à 6h moins 10. On va surtout parler des enjeux qui vont arriver sur les dernières semaines au niveau des calendriers. On va arriver en basket et en rugby, tu m'arrêtes si je me trompe, sur les phases finales.
Oui.
Avec le début des 16e de finale. Parce que ça démarre à partir des 16e. Phases finales de rugby.
Ouais, je ne sais pas trop tout ça. Non. Je ne suis pas trop spécialiste de ce côté-là, au niveau du rugby amateur. C'est possible.
Je sais qu'on arrive à partir des 16e. Jusqu'au mois de juin, ils sont en phase finale.
Il y a tout un tas de... Sans arrêt, il y a des matchs. Alors là, ça n'arrête pas.
Au niveau du football régional, et on va aller jusqu'en National 2, parce que maintenant, tous nos clubs sont en niveau amateur. On arrive sur les deux dernières journées des championnats. Avec tous les clubs des enjeux de montée, de descente. Donc on en a parlé tout à l'heure pour les Girondins de Bordeaux. C'est un match crucial où je viens d'apprendre encore une fois qu'on réouvre une tribune. Le virage sud est ouvert complètement, ce qui permet la réouverture de 2000 billets supplémentaires.
D'accord.
Je pense qu'on va battre des records. Je ne sais pas si le maire de Bordeaux ne va pas regarder le match depuis un hélicoptère tellement vaillard de monde. Je plaisante, mais c'est une très belle image pour le football, en espérant que ça se passe bien.
Oui, par contre, tu as dit une chose...
J'ai peut-être dit une bêtise, vas-y.
Oui, non, mais t'as oublié juste un club, quand même. Tu as dit que toutes nos équipes étaient au niveau amateur. Non, on parlera de Pau, quand même, qui est en...
Ah oui, je parlais de la Gironde. Oui, t'as raison. Oui. Mais en Nouvelle-Aquitaine, oui, tu as raison.
Voilà.
Pau, qui a fait une très belle saison, mais au vu de sa défaite, je crois, d'après ce que j'ai compris... ne peut plus être dans les play-offs l'accession.
Oui, pour l'accession, non. Non. Mais bon,
le club d'Henri IV, pour les gens qui nous écoutent, ils savent de qui on parle.
Oui, c'est ça.
C'est incliné face à Nancy,
oui,
et ça permet à Nancy de se maintenir.
De se maintenir. Oui. Ils ont été très bons là, mais là, depuis quelques semaines, ils sont un peu moins bons pour.
Voilà.
Ouais, les Palois, ils sont un peu moins bons. Mais voilà, mais c'est notre seule équipe de la Nouvelle-Aquitaine qui est chez les professionnels.
Oui, donc comme on l'a dit, au basket, c'est les phases finales aussi. On arrive au quart de finale.
Oui, d'accord.
Boulazac, en Pro B, joue son maintien à peu près comme tous les ans, mais ils s'accrochent, ils sont toujours là. Et en rugby, j'ai vu que Mérignac était donc en 16e. Florac, je crois aussi, je ne veux pas dire de... Mm-hmm. Lormont, je ne sais pas.
Ah oui, bon, ça, Lormont, je n'en parlerai pas plus.
Oui,
pas
on ne dira pas pourquoi.
Oui.
voilà, donc, tout au long du mois de mai, au mois de juin, on va pouvoir vous parler de phase finale et d'accession, je crois.
Et donc, à un moment donné, tu es passé sur le basket, là, avec oui. Boulazac et tout. Il y a des filles, comme d'habitude, qui se débrouillent
oui, aussi.
Bien. C'est Basketland, bien
aussi.
Entendu, qui a gagné la Coupe de France.
Et aussi, et qui était en demi-finale de la deuxième Coupe d'Europe, je crois.
Oui, peut-être, oui, et qui a perdu à Saragosse.
C'est ça.
Oui, qui a perdu en Espagne.
C'est l'Eurocoupe.
Oui, l'Eurocoupe. Voilà. Mais qui est toujours, je crois, pour gagner le titre de champion de France.
Oui. Voilà. Et je crois que la joueuse emblématique, je ne sais plus comment elle s'appelait, numéro 9, Dumère.
Dumère, oui, mais qui est maintenant directrice
voilà.
Technique. Là.
Elle est toujours dans le jargon. Alors oui... Promis, Johan, oui, l'UBB s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe.
Ah oui.
Oui, je viens de voir ton message.
On l'a tous vu. Et oui, bien
oui,
sûr.
Oui, Johan, on l'a vu. Tout
quel
va
match.
Bien.
Quel match. Mais ça va être dur en finale.
J'ai compris le message de Johan, c'est parce qu'il veut aller à Bilbao faire la fête. Eh bien, plaisante avec Johan, mais oui, effectivement. L'UBB
a
fait
un
sacré résultat.
Superbe match. Devant 42 000 personnes,
oui.
C'était plein.
42,1, c'est-à-dire que moi j'y étais.
Ouais. Mais
1,2 parce que j'étais avec mon père.
Dans les tribunes, quand tu vois le nombre de personnes qu'on connaît qui y étaient, il y en a quelques-unes. Hein.
Oui, voilà. Si tu t'arrêtes, tu dis bonjour à tout le monde, c'est ça le problème.
Ouais, on en connaît un peu du monde qu'il y avait là-bas. Je vais en voir ce soir d'ailleurs.
Mais en tout cas, non, très, très, très belle partie malgré le temps.
Oui, mais ça s'est arrêté juste avant le début du match,
Ils sont malins, parce que c'est un temps britannique.
Britannique.
Ça s'est arrêté pile au moment du...
Il a plus des cordes juste avant, et au moment où c'est parti, c'est parti. Voilà.
Donc...
Moi, j'étais devant la télé, mais c'était très agréable, quoi.
Mais je peux t'assurer qu'au stade aussi, c'était très agréable.
Ah ben oui.
Espérant que... parce que partir avec l'étiquette de favori, c'est jamais très bon. En espérant que... Et avoir, on en parle souvent dans cette émission quand il s'agit du sport, la gestion de l'effectif de l'UBB.
Oui, oh ben ça, il le gère bien.
Parce que là, il faut quand même rappeler qu'on n'est pas encore qualifié officiellement pour les phases finales du championnat.
Non, bien sûr.
Donc on va voir avec quelle équipe ils vont aller à Bayonne. J'espère qu'ils vont avoir le même résultat que les Girondins l'ont eu samedi. Ça permettrait d'avoir de belles perspectives.
Voilà, mais c'est bien, on va voir ça, on va suivre ça.
Et tout ça pour vous dire également, je vous fais un teasing, si vous voulez venir sur le mois de mai, juin, même juillet, parce que oui, on va faire des récapitulatifs au mois de juin, mai, juin, c'est ce qu'on disait avec Guy, si vous voulez venir... vous pouvez nous contacter via odoradio.fr et pas .com, n'est-ce pas?
Oui, .fr.
Ou par nos réseaux sociaux. Alexis Rocher ou
Guy Liévin.
Sur Instagram ou Facebook pour moi.
Moi aussi, je suis sur les deux.
Parce qu'effectivement, mi-mai, on espère vous organiser une émission extraordinaire.
Oui, on verra ça, on le prépare.
Si au mois de mai, juin, voire début juillet, vous voulez venir parler de votre association, que ce soit par téléphone ou sur le plateau, il n'y a aucun
souci.
Voilà.
Ce sera avec plaisir.
Tout à fait, mon cher Guy et pas Thierry.
Bon, et bien, alors Fred, on va rester là.
Le DJ Fred, on remercie le DJ Fred avec son casque. Le David Guetta du pauvre. merci Fred pour la technique. Merci pour ton aide précieuse pour le téléphone. Et pour tes analyses fines sur la cantine scolaire aussi.
Et puis. Et on se dit, pour moi, pas la semaine prochaine, mais.
Peut-être moi la semaine prochaine, mais je viendrai en courant, donc c'est pas dit non plus.
Voilà,
au revoir.
Attends, Alexis, juste avant de partir, j'ai une petite surprise pour toi. Je t'ai fait un jingle spécialement pour toi et voilà.
Vas-y.
Allez, je te le diffuse.
Je suis pas au courant du tout, hein, je préfère vous le dire. Ça sort pas. Hein.
Ah.
Et t'as vu, ça
va. Mais on va y arriver.
Les techniciens, ça va faire les malins, mais.
Allez, je te l'envoie.
Ah.
Vous venez d'entendre le coup de gueule de Monsieur Alexis.
C'est... Ah, ça va être bien pour la semaine prochaine, ça.
Zout.
Ça va être bien pour la semaine prochaine, voilà. Mais écoutez, merci beaucoup et puis on se dit à mardi. Au revoir.
Allez, bye bye.
Cet enfoiré, j'ai dit de le faire, il l'a fait.